Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour, ici Hervé Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Monsieur Claude Verret. Bonjour.
Bonjour à la radio, merci à la radio et bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Claude Verret, vous êtes ici pour nous signaler une mobilisation prévue ce 29 juin, ce sera dimanche, place de la Comtesse à partir de 10h, contre la loi du plomb qui a été votée récemment par l'Assemblée nationale. Une loi écocidaire rédigée par la FNSEA. On peut raconter aussi toutes les situations qui ont permis cette loi, notamment au niveau des partis politiques. Alors, cette mobilisation place de la Comtesse, pour vous, qu'est-ce que cela amènera ?
Ah ben, la première des choses, bon, on va recadrer un petit peu la loi en question, mais ça amènera qu'il y a des mobilisations à peu près dans toute la France. Il doit y avoir à peu près 200 mobilisations. Et donc, c'est pour montrer que d'abord, il y a une opposition, il y a une contestation de cette loi. Il y a une contestation de la procédure aussi légale qui fait qu'elle n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Et puis, je le dirais avec un peu caricatural, mais il commence à y en avoir vraiment ras-le-bol de toutes les lois, les réglementations qui sont mises à la poubelle depuis 6 ou 8 mois, depuis en plus les deux gouvernements, Bayrou et Barnier, sur tout ce qui est réglementation environnementale, réglementation sociale. Il y a une grande... on dilapide à peu près 20 années de travail qui a été fait par le monde associatif, par le monde politique, voire même par le monde des entreprises. Et c'est une grande marche arrière.
Est-ce qu'on a pu chiffrer en milliards ce que ça a coûté, justement, ces 20 années de programme ?
Alors, c'est, bien sûr, on peut dire que 20 années de programme, ça a coûté des dizaines et des dizaines de milliards. Mais si on n'avait pas fait ça, avec tout ce que ça induit derrière, c'est-à-dire, je prendrai au hasard, mais quand même, on a des chiffres de phytovictimes, par exemple, des agriculteurs qui ont eu des cancers, qui ont eu toutes les 10 à 20 000 personnes qui sont chaque année impactées par les pesticides. Ça coûte énormément à la société. On verra aussi que dans la loi en question, il y a des tas de choses qui sont prévues pour laisser faire n'importe quoi au niveau de l'agrandissement des fermes, de laisser faire n'importe quoi au niveau de la construction de méga-bassines pour le stockage de l'eau, et tout ça coûte des milliards. Et donc, il y a, en définitive, les investissements qui auraient dû être faits il y a 20-30 ans, quand on avait pris conscience de tous ces enjeux de dérèglement climatique, de perte de biodiversité, d'une sorte de génocide du monde paysan, à un moment, on aurait dû réinvestir là-dessus et ça nous coûterait beaucoup moins cher aujourd'hui que de venir colmater les brèches.
C'était surtout de mettre en évidence ce gâchis de cet investissement de 20 années réduit à néant. Ce texte écocidaire aborde justement cet aspect phytosanitaire avec les nicotinoïdes et puis ensuite ces méca-bassines. Alors avant tout, cet aspect nicotinoïde qui est revenu, c'est aussi démontrer la fragilité d'un pouvoir qui n'a plus la main mise, une mise en minorité même. Mais ça va à l'encontre en même temps de ce que pensent les Français en général, qui ont un parti pris aussi pour l'écologie, mais ensemble, le pouvoir semble le renier, et d'autant plus l'Assemblée nationale. Votre point de vue là-dessus, sur quoi aboutirons-nous ?
Je pense que si vous prenez le micro, que vous allez faire le tour du marché d'Audi demain ou samedi, et que vous demandez à la population, aux habitantes et aux habitants, ce qu'ils pensent de ces reculs au niveau de l'environnement, au niveau des phytosanitaires, au niveau des engrais, au niveau des méga-bassines, tout le monde va vous dire, écoutez, on avait depuis 20-30 ans, on avait avancé modérément, je le dirais aussi comme ça. Ce grand retour en arrière est une absurdité. Personne vous dira, moi je veux des méga-bassines, moi je veux des phytosanitaires. Donc il y a un moment, cette demande ne correspond à aucune demande de la population. Même les agriculteurs. Ici, on pourrait faire le tour des agriculteurs dans le Diois. Alors, bien évidemment, dans le Diois, ils se sont engagés depuis 20, 30, 40, 50 ans sur de l'agriculture biologique et sur une préservation de l'environnement. Donc, vous aurez plutôt des réponses satisfaisantes au niveau de la protection de la nature, de l'environnement et des humains. Mais même dans d'autres territoires où il n'y a pas cette, cette quantité d'agriculteurs en agriculture biologique, personne revendique d'avoir des méga-bassines, personne ne demande la réintroduction des phytos, personne ne demande ça. Donc, on s'aperçoit qu'in fine, c'est 1, voire 2%, allez, on va être large, 2% des agriculteurs qui sont bien sûr les dirigeants de la FNSEA et puis dans nos départements des dirigeants des FDSEA qui demandent ça pour quelques gros agriculteurs. On sait très bien que les méga-bassines, par exemple, sont en capacité, dans les meilleurs endroits où elles ont été autorisées, d'irriguer 1 à 2% des agriculteurs. 2% des agriculteurs, 9 fois sur 10, c'est pour des productions animales, c'est-à-dire que ça ne sert en rien pour les terres arables, pour faire des légumes ou faire de l'alimentation humaine. Ça sert pour l'irrigation, 9 fois sur 10, sur des maïs. Et une fois sur deux, c'est des productions qui vont aller aux agrocarburants. Donc, on se rend compte de l'absurdité de construire des méga-bassines pour irriguer des produits qui vont aller dans les agrocarburants ou qui vont aller à des productions d'engraissement de bétail à l'exportation. Donc, vraiment, c'est le degré zéro de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est le degré zéro de l'agriculture biologique et des petites fermes paysannes, comme on voudrait les voir se développer sur nos territoires. C'est le degré zéro d'une souveraineté alimentaire.
Il y a aussi cette inégalité hein, dans ces revendications entre un syndicat majoritaire qui tient en fait le pouvoir hein, et d'autres représentants syndicaux plus proches de la terre qui ne sont pas du tout entendus. Qu'en est-il de cette expression de la prise en compte ? Bien sûr, la majorité a toujours raison, mais est-ce que vous pointez ou est-ce que vous envisagez de voir comment changer ces paradigmes en quelque sorte ou...
Alors, changer ces paradigmes aujourd'hui dans le système de représentation du syndicalisme agricole, mais pas que du syndicalisme agricole. Il y a une omnipotence de la FNSEA et du CNJA, et ça depuis très longtemps. Moi, ça fait 50 ans à peu près que je bataille contre ces deux syndicats dits majoritaires, mais dits majoritaires aussi parce que dans chaque département, ils ont aussi la mainmise sur les caisses de crédit agricole, sur la SAFER, sur tout un tas d'organismes qui permettent aussi, même à une époque sur l'agriculture, Dromoise, le journal que tous les agriculteurs recevaient dans leur chaumière. Donc, ils ont la mainmise sur les médias et surtout. Et donc, du coup, ils sont toujours majoritaires. En définitive, quand même, quand on s'aperçoit que le nombre de syndicalisations au niveau agricole et quand on voit ce qui est défendu et si on fait le bilan de ce qui s'est passé depuis la guerre au niveau du nombre d'agriculteurs, aujourd'hui, on parle de 200 000 agriculteurs, peut-être moins. Et quand on à la sortie de la guerre, il y avait 2 à 3 millions d'agriculteurs, de fermes. Donc, on voit bien que la FNSEA et le CNJA ont co-géré cette politique agricole depuis la guerre. Ils ont participé à la diminution, voire à l'éradication d'un paquet de fermes et de nombre d'agriculteurs avec cette vision productiviste de petit patron, je vais bouffer mes voisins, je vais m'endetter, je vais surtravailler, je vais prendre les fermes des autres, etc. Je vais investir et avec la complicité de tous les organismes para-agricoles, hein, je pense bien sûr au Crédit Agricole. Aujourd'hui, dans certaines communes, on n'a plus d'agriculteurs. Dans certaines communes, c'est les agriculteurs des communes voisines qui vont faire les foins. Donc, on est en train non seulement d'enclencher avec la FNSEA et le CNJA une disparition des agriculteurs depuis si longtemps, mais aussi de tuer certains villages où il n'y aura bientôt même plus assez d'agriculteurs pour être dans les conseils municipaux, où les classes vont fermer parce qu'il n'y aura plus assez d'élèves pour rester ouvertes. C'est une éradication du milieu rural.
On va arriver aussi sur le Rassemblement national qui profite de cette situation de confusion, d'affaiblissement des pouvoirs pour indiquer aussi certaines modifications de loi, notamment sur la protection du consommateur avec l'ANSES qui est très mise à mal. Donc, le programme de cette majorité, entre guillemets, et le Rassemblement national, c'est « laissez-nous empoisonner tranquille ».
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la majorité, la dite majorité gouvernementale est tellement fragile que pour faire passer certaines lois, elle est obligée de faire appel. Elle pourrait faire appel à la gauche, mais elle fait bien sûr appel aux élus du Rassemblement national, du Front national. Et aujourd'hui, bien évidemment, pour faire les textes qui passent, sont des textes qui sont, à défaut d'être hyper conservateurs, sont hyper réactionnaires. Et aujourd'hui, tout ce qui a été construit, on le disait au début de l'émission, tout ce qui a été construit au niveau français, parfois avec des atouts européens, au niveau des réglementations, sont mis à mal, sont mis à l'eau. Et aujourd'hui, je vois rien que dans cette loi, il y a par exemple une restriction de la protection des zones humides. Les zones humides sont quand même les derniers bastions de la biodiversité. On dit qu'il faudrait les passer de 2 à 3, voire à 10, voire à 30% pour protéger les bords de rivières. Ce sont des quantités de ruisseaux qui ont été déclassés d'ailleurs par le gouvernement à un certain moment. Et donc, il y a un vrai enjeu au niveau de l'environnement et au niveau de la protection de la biodiversité et au niveau des fermes. Aujourd'hui, les méga-fermes sont promues, c'est-à-dire que on avait des seuils qu'on ne pouvait pas développer, qu'on ne pouvait pas dépasser au niveau de l'agrandissement. On pense surtout aux poulaillers industriels et aux élevages porcins industriels. Il y avait des réglementations, il devait y avoir des enquêtes d'utilité publique. Le préfet, souvent, 9 fois sur 10, donnait quand même des autorisations quand ça frôlait les chiffres alarmants. Avec derrière tout ce que ça comporte, hein, les lisiers, les algues vertes, la pollution des eaux, etc. Et aujourd'hui, ils vont doubler la capacité de pouvoir installer des poulaillers ou des élevages industriels ou des élevages bovins, parce que dans la Haute-Loire, c'est une ferme de 3 000 bovins qui va être peut-être autorisée par le préfet. Donc, il y a un moment, il n'y a plus de limite. Les gouvernements n'ont pas pris conscience que le monde agricole, le monde paysan était d'abord indispensable pour nourrir les habitantes et les habitantes, mais ils n'ont pas pris conscience que c'est chez une grosse partie de la France qui vit dans ces territoires, qui fait fonctionner des écoles, des conseils municipaux, des associations, qui entretiennent des territoires, qui font tourner des services publics. Et il y a une vraie dynamique du monde rural. Alors, bien évidemment, le Rassemblement national s'est saisi de se laisser aller et pour dire tous ces services publics qui sont mis en désuétude pour se servir là et d'alimenter et les colères et son électorat. Alors après, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher aujourd'hui? Le Rassemblement national fait fructifier ses résultats dans le monde rural. Le Diois et la Drôme n'est pas particulièrement, bien qu'on ait deux députés du Rassemblement national, n'est pas une zone particulièrement sensible au Rassemblement national. Il y a un tel travail associatif, syndical, des élus, des conseillers municipaux, des communautés de communes sur ce territoire et même des entreprises et des écoles et des universités qui fait qu'il y a une sensibilisation dans l'autre sens, qu'on est arrivé à un stade où aujourd'hui dans la Biovallée on est à peu près à 50% d'agriculteurs biologiques quand même, c'est pas mal, même s'il y a des grands reculs au niveau du financement de l'agriculture biologique. Et donc la société civile est peut-être en train de changer la société sur les territoires à défaut de que ce soit fait au niveau national par les élus.
Cette mobilisation est nationale pour ce 29 juin, comme vous le disiez. Vous parlez aussi de la situation du Diois avec ce fort potentiel associatif qui permet justement de fédérer et de tenir à distance ces excès agricoles. Est-ce qu'à l'image du Diois, il y a d'autres secteurs en France qui ont cette importance ou cette action?
Absolument. C'est le grand paradoxe ou les grandes contradictions de la France. C'est-à-dire qu'au niveau national, on voit défiler des quantités de retours en arrière. Je pense aux zones à faible émission de gaz dans certaines villes. Je pense à la mise en cause de l'ANSES, à la mise en cause, il n'y a pas très longtemps, de l'Office national français de la biodiversité. Et en réalité, sur les territoires, C'est vrai pour le Diois, mais c'est vrai pour le bas de la vallée, c'est vrai pour le Trièves. Moi, je suis allé en Bretagne, il n'y a pas très longtemps, dans le pays de Plouermel. Ils sont exactement sur les mêmes dynamiques que nous, au niveau des alternatives, au niveau de l'agriculture biologique, au niveau des plantations de haies, au niveau de la protection des zones humides, au niveau des mobilisations contre... J'étais pas loin de Plogolf, alors ça a rappelé pas mal de souvenirs. Des mobilisations autour de ces bassines. Et donc, tous les territoires, des hommes et des femmes et des hommes, prennent en main leur avenir, essayent de changer les choses sur le terrain, souvent en connaissance de cause, puisqu'ils y habitent depuis longtemps ou qu'ils sont amoureux de ce territoire. Et donc, ils changent les choses. Et des fois, en contradiction avec les décisions nationales. On pourrait faire l'histoire, mais c'est un peu le grand scénario du Larzac. C'est-à-dire, au niveau national, on veut agrandir un quart militaire. Et puis, sur le terrain, il y a des paysans qui se battent pour conserver leurs terres, leurs fermes et leurs troupeaux de brebis et avoir un marché du Roquefort plutôt sympathique. Et bien là, on est un peu dans le même scénario. Les territoires se battent pour garder des éléments du cadre de vie, des éléments de leur environnement, du lien social, et puis tout un tas de politiques qui créent qu'on reprend son avenir en main. Et ça se fait à l'insu des décisions nationales ou des décisions européennes ou des décisions même plus hautes au niveau de l'OMC. Parce qu'aujourd'hui, on va le dire simplement, mis à part quelques députés, il y a une déconnexion entre les élus influencés par les lobbies agricoles et les lobbies chimiques vis-à-vis des territoires, bien évidemment.
Il y a donc aussi une autre réalité, ce sont les conséquences de ces réautorisations de néocotinoïdes, déjà, mais aussi d'autres produits phytosanitaires au détriment de l'utilisateur qui est l'agriculteur. Est-ce que, justement, je crois qu'il y a quelques voix qui commencent à se lever au sein de la FNSEA pour être considérées dans leur activité d'avoir été impactées par certains poisons?
Oui, je parlais tout à l'heure de Phytovictimes. C'est une association d'agriculteurs qui ont utilisé des engrais et des produits phytosanitaires en toute bonne foi et en toute bonne conscience à l'époque, il y a 20, 30, 40 ans, pour leurs cultures. Particulièrement sur des cultures de colza, des cultures de maïs, des cultures où on avait besoin de ces produits-là. Aujourd'hui, et on a reçu Adi des personnes de Phytovictimes et François qui est venu avec en chaise roulante tellement il avait été impacté. Moi, je sais très bien que dans le Diois, il y a 30 ans, on sulfatait les pommiers à Saint-Romain-en-Diois sans cabine, avec le tracteur vert et bleu des sulfates. Il n'empêche que mes deux cousins, Claude Martin et son père, sont morts à cause de cancer, à cause des phytosanitaires. Donc ça nous a impacté, nous aussi, ici, sur ce territoire. Donc on sait très bien que les premières victimes de ces produits, ce sont les agriculteurs. Et aujourd'hui, quand on voit que les agriculteurs de noisettes réclament la réintroduction de certains phytos, alors qu'on sait très très bien les conséquences sur les agriculteurs et les agricultrices et les enfants d'agriculteurs et d'agricultrices, c'est absolument insupportable de voir ce genre de choses.
Avec une diffusion des responsabilités des gens de pouvoir, le temps que les procès se mettent en place ou un jugement soit rendu, les personnes ont quasiment disparu de l'actualité, des médias.
Il ne faut pas oublier, ce n'est pas un détail, c'est que ce monsieur Duplomb était quand même président de la Chambre d'agriculture pour la FDSEA de la Haute-Loire, et que donc c'est un des éléments du rouage de cette machine de lobby qui perpétue en permanence l'utilisation des engrais, l'utilisation des pesticides, l'agrandissement des exploitations, et qui est complètement en complicité avec ce monsieur Rousseau, président de la FNSEA, qu'on ne peut pas appeler vraiment un agriculteur, qui est plutôt un lobbyiste aujourd'hui, président de grandes firmes agricoles, et qui n'a strictement rien à voir avec l'agriculture. Il y a un moment, aucun agriculteur ne se reconnaît dans ce type de personnage.
En quoi consistera cette matinée à partir de 10h donc ?
Alors de 10 à 12, on va essayer de dialoguer sur des sujets. Alors tous ces sujets dont on vient de parler, que ce soit les zones humides, que ce soit l'ANSES, que ce soit les projets de plantation de haies ou les projets de plantation d'arbres, que ce soit aussi une petite agriculture qui permet de faire vivre des familles, qui soit aussi cessible, c'est-à-dire qu'une ferme aujourd'hui, si elle a 2000 ou 3000 hectares, personne ne peut reprendre derrière. Donc des fermes qui soient jouables pour des couples qui veulent s'installer dans le milieu rural. Tout ça va être débattu. Je ne dis pas qu'on va réinventer une agriculture. Ça fait 30 ans que la Confédération paysanne ou d'autres syndicats expliquent qu'on est dans la liquidation de la petite paysannerie au niveau français et au niveau européen, je dirais presque même au niveau mondial, que c'est un chemin absolument absurde parce que tous ces gens-là, pour une part, bon, pour chez nous, ils se retrouvent 9 fois sur 10 à la retraite, mais pour une part, dans les pays du tiers-monde, quand on licencie 1 million d'agriculteurs en Inde, 9 fois sur 10, ils se retrouvent dans les faubourgs de Bombay, dans des situations beaucoup plus dramatiques que ce qu'ils étaient dans sur leur ferme. Donc, il y a un moment, cette liquidation de la paysannerie au niveau mondial est une absurdité totale pour le social, pour l'emploi, pour la culture, pour la vie des familles et pour la suite qu'on va donner à la qualité de l'environnement, de l'eau, de la protection de l'eau, de l'usage qui sera fait des terres. On est dans un système complètement absurde. Il est à revoir en totalité et il faut que les femmes et les hommes de partout maintiennent des gens à la terre, maintiennent des paysages magnifiques, comme il y en a dans le Diwa, maintiennent des petites exploitations, maintiennent des outils de travail susceptibles d'être transmissibles à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Il faut tout revoir en matière d'agriculture.
Donc, tout le monde est invité à cette mobilisation, hein, cela concerne tout le monde, de l'agriculteur à la famille. Il y a un lien aussi qu'on peut trouver pour pouvoir se documenter ou s'informer.
Alors là, j'enverrai directement sur les deux papiers qu'on a mis hier sur le média citoyen du Diwa. Il y en a un qui est d'Écologie au quotidien, il y en a un qui est très ouvert, très large, qui est signé par aucune organisation, puisqu'il y a plusieurs organisations. On parlait de la Confédération paysanne, on peut parler de la Ligue des droits de l'homme, on peut parler d'un tas d'organismes locaux qui se mobilisent autour de ce sujet-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signature. 2 heures de discussion sur tous les sujets que je viens d'aborder, et puis après, nous rejoindrons au lycée collégial, à la cité du Diwa, une autre manifestation pour les fiertés. Et donc, à 14h, on se retrouvera devant le lycée-collège. Aujourd'hui, tous les combats sont partagés. Tous les combats sont... on se fait plaisir aussi parce qu'aujourd'hui, le combat n'est plus triste et violent. Je ne pense pas... bien évidemment, je mets entre parenthèses Sainte-Soline. Et aujourd'hui, ça fait partie d'un mode de vie aussi.
Claude Verret, merci beaucoup d'être venu sur Air Diwa pour nous informer donc de cette mobilisation, place de la Comtesse le 29 juin à 10h, et à la suite donc aussi cette marche des fiertés à la cité scolaire à partir de 14h. Bonne soirée à vous.
Merci à toi.
New Mexico delivers
Wiscusa!
But the message must be...
Anyway...
Adenauer's gilded flowers towered over me for years.
But now I need a new excuse!
Wiscusa!
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 No way.
Free that tree-strewn harm-ready
rushing down the animal death toll stream! Feeding out the wings of trouts and really trains of peppers from
streams and silver and white and white and
eyes are big for what they weigh.
They stand too weak for snakes.
Your name will have to change before the horizons is real.
And I don't even care.
Oh boy.
Beavers, mustard, killing kids and monsters, Daniel.
Do you ever?
Wonder who you are?
Well,
kick a cat.
Kick a cat today.
Fish your dome, how can I
for one?
Kick a cat.
Kick a cat today.
Fish your dome, how can I
for one?
Kick a cat.
Kick a cat today.
Fish your dome, how can I
for one?
Kick a cat.
Kick a cat today.
Fish your dome, how can I?